Total Energy, toujours avec vous. Avec vous pour encourager nos coureurs sur les plus grandes courses. Et avec vous pour vous aider à maîtriser votre consommation d'électricité. Total Energy, de l'électricité et des services innovants pour prendre la main sur votre consommation. Voir conditions sur totalenergy.fr.
L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Vingegaard, le Danois qui nous régale, et l'écart qui continue de se creuser entre le Danois et Pogacar.
Vingegaard derrière qui lance ses hostilités à nouveau. Ah, Pogacar a plus de mal, mais est-ce que Pogacar peut suivre?
Non, il ne peut pas suivre.
Pogacar ne peut pas suivre, il écoute dans son oreillette, il est en difficulté, Pogacar.
Ça y est, Vingegaard est parti, Pogacar qui tente de prendre la route du maillot jaune.
Il est à la dérive, Pogacar.
Ah, il s'accroche
à gauche, à droite. Non, il va pas.
Pour l'instant, il n'est pas lâché.
On l'a jamais vu comme ça.
Chute de Pogacar qui va se relever. Chute au ralenti pour Pogacar, mais Vingegaard a pu prendre quelques mètres d'avance.
Vingegaard qui l'attend, qui préfère.
C'est pas maladroit.
Ouais. Il préfère attendre. Et la main dans la main. Pogacar est en difficulté. Ouais. Pogacar est lâché. Wout van Aert et Vingegaard qui partent tous les deux. Pogacar qui est en train de perdre définitivement le Tour de France. Jonas Vingegaard qui touche son cœur, qui sait qu'il a gagné. Il embrasse la foule et il peut maintenant serrer le poing. Jonas Vingegaard, vainqueur à Utakap.
Cette production de Julie Dérault avec effectivement certains des meilleurs moments vécus sur l'antenne grâce à notre Dream Team vélo, hein, qui va être contente elle aussi de retrouver les Champs-Élysées demain. On s'est régalé évidemment durant 3 semaines sur l'antenne de RMC Intégral Tour, l'After Tour. Alors, seul un test Covid positif pourrait encore le priver de la victoire dans ce Tour de France 2022. Jonas Vingegaard ne perdra pas les 3 minutes 26 sur les 40 km du contre-la-montre de Rocamadour ce samedi. A priori, le Danois de l'équipe Jumbo Visma à course gagnée. À 25 ans, il a ébloui tous les observateurs d'une édition qui semblait promise une nouvelle fois au double tenant du titre, Tadej Pogacar. La 11e étape et l'arrivée au col du Granon a prouvé que le Slovène n'était pas imbattable et montré que le Danois était peut-être plus fort que ce que l'on pensait. Alors, sur la musique qui fout les jetons, je vous pose cette question, les grandes gueules. Est-ce une victoire de Vingegaard ou bien une défaite de Pogacar? Marion Bartoli.
Défaite de Pogacar.
Une défaite de Pogacar pour Marion. David Douillet.
Ouais, moi je suis d'accord avec Marion. C'est une défaite de Pogacar qui s'est mal préparé, je pense.
Marie Martineau.
Ah ouais, carrément, qui s'est mal préparé. Alors moi, ça serait une victoire de Vingegaard.
Une victoire du Danois, quand même. On va saluer un petit peu la réussite du nouveau.
Au
palmarès. Alors avant de vous donner la parole pour ce débat, on va accueillir Pierre-Yves Leroux, un de nos envoyés spéciaux sur la route du Tour. Salut Pierre-Yves.
Salut Simon, bonjour à tous.
Coucou.
Pierre-Yves, je le disais, jusqu'à cette 11e étape, c'est vrai qu'on avait tendance à croire que personne ne réussirait, encore une fois, à battre un Pogacar qui faisait jusque-là grosse impression.
Oui, mais peut-être que ce qu'on avait tous oublié et qu'on a peut-être redécouvert, c'est que le cyclisme, c'est pas un sport individuel. La session tableau noir de la journée du Granon est à montrer vraiment dans toutes les écoles. Si Pogacar a coulé et perdu le tour ce jour-là, c'est bien parce que le harcèlement permanent des picadors jaune et noir a probablement entraîné une fringale du maillot jaune. Ensuite, les Wout van Aert, Van Hooydonk, Benoît, Kuss et compagnie ont encadré Jonas Vingegaard pour poser les banderilles. Et dans Otakam, le nouveau maillot jaune a effectué lui-même la mise à mort, mais Pogacar n'avait déjà plus les forces de lutter. Mauro Gianetti, le manager de l'équipe UAE, a souvent répété avant le tour, la Jumbo a deux équipes, les équipiers de Vingegaard et Wout van Aert, c'était sûrement un peu trop pour Pogacar.
Bon, effectivement, Pogacar, on aura peut-être l'occasion de l'entendre tout à l'heure, qui a été obligé de reconnaître qu'effectivement, face à la Jumbo, c'est compliqué de lutter. Merci Pierre-Yves, on te garde encore quelques petites minutes. Je sais que tu as attendu par ailleurs, si tu veux intervenir dans le début de ce débat. J'ai envie de laisser la main à Marie Martineau, parce que toi au moins, tu penses, contrairement à nos deux autres grandes gueules du jour, que c'est quand même le Danois qui est allé chercher cette victoire. Face à Pogacar. Pourquoi?
Déjà parce que je pense qu'il a été plus fort, donc je salue le fait qu'il a été plus fort et qu'il nous ait tous surpris. Alors je suis entièrement d'accord avec Pierre-Yves, je pense que c'est une victoire de la Jumbo, au-delà de la victoire de Vingegaard, parce que c'est son équipe qui a fini par faire plier Pogacar avec toutes ses attaques multipliées. Enfin, l'homme n'a pas pu résister à ça, et donc dans un premier temps c'était quand même un combat entre un seul homme et toute une équipe. Voilà, il a été plus en forme. La preuve, c'est qu'à chaque fois, du coup, que Pogacar a tenté de réessayer de récupérer son maillot jaune et de poser des attaques, c'était des attaques qui étaient plus assez incisives. L'autre était complètement collé à sa roue et le laissait pas respirer. Donc ça a été aussi une victoire peut-être psychologique au-delà de la victoire physique. J'ai trouvé que le combat était chouette. On a quand même commencé ce tour en ne parlant que du duel Roglic-Pogacar. On a parlé de Vingegaard, mais comme d'un joker, quoi, de quelque chose au cas où il y aura un problème chez Roglic. On avait complètement oublié d'imaginer que quelqu'un pourrait être mieux préparé que Poggi dans une meilleure équipe. Poggi dans une meilleure équipe et qui pourrait faire le job. Et voilà, donc pour moi, c'est un vainqueur bien plus que... Enfin, on ne peut pas reprocher grand-chose quand même à Pogacar. On ne peut pas dire que Pogacar a perdu. Enfin, il fait quand même deuxième du tour. Ils sont 140 derrière lui à avoir fait moins bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça.
Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que Marion et David ne sont pas d'accord. Marion, tu trouves que Pogacar n'a pas été au niveau auquel il aurait pu évoluer ?
Écoute, non, en fait, moi j'ai trouvé qu'il s'est mal préparé. En tout cas, les Jumbo ont fait une bien meilleure préparation que lui. Ils sont partis pendant un mois en stage à la montagne en s'entraînant tous les jours ensemble, à très haute intensité. On a vu que c'est finalement dans la montagne aussi que Pogacar a vraiment plié. Donc, c'est sur cette fameuse étape où on avait l'impression qu'il n'arrivait plus du tout à suivre et qu'il avait eu un énorme coup de barre. Il a préparé finalement ce tour qu'en faisant que le Tour de Slovénie. Pour moi, on ne prépare pas un Tour de France en faisant que le Tour de Slovénie. Et je pense qu'il avait tellement été fort en 2021, il avait tellement surclassé tout le monde. Je relisais un petit peu les articles avant le Tour de France cette année pour voir finalement, d'après les spécialistes, qui étaient favoris. Et on ne voyait pas Pogacar perdre cette année, en fait. Donc, on se demandait même s'il allait finalement battre son record de vitesse, s'il allait terminer le Tour de France plus vite. Mais on ne lui voyait pas vraiment quelqu'un être capable d'aller le chercher sur un Tour de France entier. Et on a vu que dès les pavés, il a commencé vraiment à montrer des signes de difficulté. Il avait du mal à rester dans les roues de ses concurrents. Après, bien évidemment, que l'équipe entière de la Jumbo a aidé totalement Vingegaard à aller chercher ce titre. Lui, on a l'impression qu'il était un petit peu seul. Mais pour moi, ce manque de préparation où il a pas fait assez d'entraînement à très haute intensité pour être capable, encore une fois, dans la chaleur aussi qu'il a beaucoup pesé cette année, d'aller chercher un petit peu tout seul, certes, mais une meilleure cadence et une meilleure puissance. Lui avait déclaré qu'il se sentait plus fort cette année, plus mince, plus puissant. On n'a pas vu ça, finalement, sur des étapes dures. On a vu, au contraire, un coureur qui était plutôt en difficulté, qui avait du mal à relancer, qui avait du mal à mettre
l'intensité. En difficulté, Marion, il gagne quand même 3 étapes sur le tour. Bon, je suis pas sûr qu'il était en grande difficulté.
Oui, mais quand tu vises le titre et que tu finis deuxième à plus de 2 minutes, de toute façon, c'est que t'as raté. Enfin, pour lui, il a raté son tour. Après, on peut toujours dire qu'il a mieux fait que les autres. Mais
il a raté une étape, sinon il est toujours devant, il est seul et toujours devant quand même. Enfin, je te trouve dur.
Il est pas seul. S'il avait été seul et toujours devant, il l'aurait gagné.
Mais tu gagnes pas le tour tout seul, c'est certain.
Pour moi, si tu veux, les défaillances qu'il a montrées sur des moments clés d'un tour, on sait très bien que le tour se joue sur quelques moments clés. Et la montagne en fait partie. Cette année, c'était des étapes particulièrement difficiles. Qui était plus difficile que l'année dernière, qui était plus haut en termes d'altitude que l'année dernière. Et pour moi, à ces moments-là, pardon, il n'a pas été capable de faire la différence sur le plan physique. Alors oui, bien sûr, on peut toujours dire qu'il fait beaucoup mieux que les autres, ça c'est évident. Mais il visait le titre, il visait pas autre chose, Pogacar, ça
c'était
pas la deuxième place. Donc à partir du moment où il a perdu ce Tour de France, effectivement, on peut analyser que l'autre a très bien couru et qu'il a fait un excellent Tour de France, qu'il a parfaitement géré avec son équipe. Mais je pense quand même que dans l'analyse globale de directeur de course de Pogacar, il va pouvoir se dire à la fin, peut-être qu'on aurait dû faire une préparation quand même un tout petit peu plus soutenue qu'un tout simplement un Tour de Slovénie.
David, est-ce que tu partages les arguments développés par Marion ?
Oui, absolument. Moi, je pense que je pense qu'il y a un cumul de choses. Évidemment, l'équipe Emirates est moins structurée et puis moins sur le papier, moins dense et moins costaud que la Jumbo. Ça, c'est la première chose. Donc, évidemment, on gagne pas comme Marie l'a dit, on gagne pas un tour tout seul. Et là, ça a manqué parce qu'on l'a vu tout le temps Pogacar derrière dans la roue de Vingegaard et puis ses coéquipiers disparaître ou disparaître un peu satellitaire autour de lui. Ça c'est la première chose et c'est quand même très très grave. La deuxième chose, c'est que manque de prépa, ça j'en suis certain, puisque la première, soi-disant, manque de sucre dans le sang, moi j'y crois pas. Il y a eu d'ailleurs pas mal de polémiques là-dessus, sur le fait qu'il est coincé quand Vingegaard a fait l'écart.
Le fait que ce soit pas premières... une hippo, qu'il ait pas simplement fait une hippo.
Oui, il y a eu quand même pas mal de doutes. Et puis moi je doute, parce que moi j'en ai, enfin je pense que toi aussi, enfin tout le monde, tous ceux qui ont fait un peu de sport dans leur vie ont vu un jour ou l'autre un copain ou une copine, même soi-même, partir en hippo. Et il avait pas forcément les symptômes d'une hippo. Quand tu fais une hippo, t'es dans le gaz complet, t'es même c'est comme si t'étais assommé, abasourdi. Et au moment où il a eu son trou noir, et ben il n'était pas du tout dans cet état-là, quoi. Je pense que c'est autre chose. Voilà, et je pense qu'il était trop court, manque de prépa, peut-être un coup de chaud, mais très certainement pas une hypoglycémie. Puis la troisième, c'est que il s'est heurté à quelqu'un qui avait bien fait le job, quoi, et puis qui a fait qui est quasiment à son niveau et qui a su faire la différence avec une grosse équipe. Voilà, parce que tu mets Pogacar dans l'équipe de la Jumbo, je pense que avec le même niveau, je pense que il est devant, il a tellement écrasé le tour.
Pogacar était le meilleur l'année dernière, il a du reste pour votre gouverne préparé ce tour de la même manière que l'année dernière, mais donc il était incroyable l'année dernière, il roulait sur tout le monde, et là cette année il y a un mec qui est meilleur que lui, mais c'est Pogacar qui est déficient.
La Jumbo a préparé le tour différemment.
Si t'es meilleur que Pogacar, c'est que Pogacar était déficient.
Enfin, justement, je suis sûr qu'il a le problème de Pogacar, c'est qu'il a gagné et il s'est un petit peu reposé sur ses lauriers. Exactement. Il s'est mal remis en question. Tu peux faire même le même programme d'entraînement et puis pas du tout avoir les mêmes incidences, hein, parce que t'as pas le même engagement. Donc voilà, je pense qu'il est. Il est jeune, hein, il est encore très jeune pour absorber un Tour de France au niveau médiatique, au niveau de tous les aléas que ça peut, puis de la pression qu'on peut avoir sur les épaules. C'est loin d'être évident. On n'en parle jamais assez. Et peut-être que là-dessus, il a été un peu novice pour le coup.
Je me tourne vers Pierre-Yves Leroux, toi qui as suivi jour après jour cette course. Marion disait tout à l'heure, Pogacar, il n'a couru que le Tour de Slovénie. Bon, c'est un petit peu exagéré quand même. Il a fait une grosse saison. Ça fait un petit moment qu'il est sur le pont, le double vainqueur du Tour tout de même.
Oui, alors après, on peut pas parler de grosse saison comme à une époque où les coureurs arrivaient avec 50 jours de course sur le Tour de France. Mais il est à peu près au même nombre de jours, c'est-à-dire autour de 20-25 comme l'année dernière avant le départ du Tour, c'est-à-dire qu'il a fait Milan-San Remo, il a fait Tirreno-Adriatico, il a fait l'UAE Tour. Sa saison l'a commencé début février. En revanche, c'est vrai que préparer un Tour de France sur le Tour de Slovénie, c'est pas aussi bien que le Dauphiné ou le Tour de Suisse, très certainement, mais ça avait marché l'année dernière. En revanche, il y a 2 ans, il avait fait le Dauphiné. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de suffisance, c'est vrai, possible. Après 2 victoires, il s'est dit, bon, ça suffit, le Tour de Slovénie, je suis chez moi, c'est important aussi, et ça va passer pour le Tour de France. Néanmoins, je pense quand même que le collectif de la Jumbo a fait la différence, et que si vous mettez Pogacar et Vingegaard seul au départ d'un Tour de France, c'est Pogacar qui l'emporte.
Et ben justement, Pierre-Yves, on va écouter Tadej Pogacar, le leader de l'équipe UAE. Il a été interrogé évidemment sur la puissance, la force de frappe collective de la Jumbo, l'équipe de Vingegaard. Écoutez ce qu'il en pense.
Je ne sais pas si ma chute m'a fait perdre du temps, mais aujourd'hui Jumbo était trop fort. J'ai essayé, j'ai tout misé pour reprendre le maillot jaune. Quand je suis tombé, j'ai perdu un peu en motivation pour la dernière montée, mais je n'ai pas abandonné. Je pense que j'ai donné le maximum aujourd'hui. Je suis fier, mais le meilleur a gagné.
Voilà, le fair play, de Pogacar, effectivement, c'était après la 17e étape et l'arrivée au sommet de Otakam. Effectivement, c'est vrai qu'on l'a senti peut-être un petit peu moins dominateur, un petit peu moins aérien sur dans les pentes de la montagne. Mais effectivement, ce Vingegaard est paru quasiment imbattable dans la montagne cette année, et peut-être effectivement plus sûr de lui grâce à ce collectif de la Jumbo. Du coup, vous, Marion, David, vous attendez à voir un Pogacar revanchard et plus fort que ça l'an prochain, par exemple?
Vas-y, je t'en prie,
vas-y.
Marion.
Non, je t'en prie, vas-y.
Non, mais je pense que il va être piqué. C'est un champion, c'est clair. Il va être piqué au vif et puis il va redoubler. C'est une défaite qui va être extrêmement riche pour lui, j'en suis certain. Tu gagnes pas le Tour plusieurs fois comme ça par hasard. Donc il a le mental. C'est un compétiteur. Je pense qu'il va aborder la saison prochaine d'une autre manière. Et ça sera intéressant de voir qui composera l'équipe Emirates s'il y reste pour l'épauler dans tout ça. Je pense qu'il va avoir des exigences, qu'il va mettre au point peut-être lui-même son équipe avec son manager pour que l'année prochaine il ne puisse pas se faire écraser à nouveau, parce que s'il règle pas son problème d'équipe, ça sera très compliqué.
Il aura beau faire la préparation qu'il veut, ça sera compliqué. Bennett, Soler, McNulty, il y avait du monde dans cette équipe aussi. Je crois qu'il y a des dynamiques qui s'installent comme ça, et celle de Vingegaard était hyper positive du départ. Ça part chez lui à la présentation des équipes. Souvenez-vous, à la présentation des équipes, quand on pose la question à Roglic, c'est qui le chef cette année à la Jumbo, tout le monde répond c'est Vingegaard, c'est comme ça. Même si c'était peut-être pas encore tout à fait décidé en interne, il y avait quelque chose d'écrit, et les histoires elles se font comme ça. Et ce Tour de France, pour le coup, en plus du coup, on s'est quand même bien régalé, c'était popcorn pendant 3 semaines. Moi je vais retenir ça, et retenir qu'il va vraiment falloir suivre ce petit Danois pour la suite, et le duel en tout cas s'annonce plutôt excitant.
Même si Primoz Roglic est un gentleman, effectivement, il s'exprimait au Danemark chez son jeune coéquipier Vingegaard.
Tu vois, comme les choses
faire un petit peu plaisir au public.
C'est des détails, mais ça s'imprime comme ça. Hein.
En tout cas,
bon, après moi les déclarations médiatiques, j'y crois pas beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de langage qu'on leur demande de sortir. Est-ce qu'ils le pensent vraiment? Ça c'est encore autre chose. On a tous fait des conférences de presse en nous demandant de dire ce qu'on devait dire et pas forcément en le pensant.
Bon, après, ça devait être ton genre.
Là où je rejoins totalement David, c'est que je pense que il va y avoir une analyse profonde qui va être faite par lui et son équipe, parce que bien évidemment il n'est pas tout seul, Pogacar, et de se dire sur quoi finalement on a défailli. Est-ce qu'effectivement la préparation a été un petit peu trop suffisante, et donc mettre beaucoup plus l'accent l'année prochaine sur la préparation. Est-ce qu'il faut recruter pour avoir des coéquipiers plus à sa hauteur, comme l'a fait la Jumbo? Voilà, il va falloir mettre les accents sur ce qu'il a manqué, sur ce qu'il a pêché, et repartir. Mais est-ce qu'il va repartir? Ça, c'est évident. On n'est pas un champion comme lui en gagnant aussi jeune le Tour de France sans avoir des ressources qui sont quasiment inépuisables. Mais cette année, je pense que vraiment, il s'attendait pas à subir comme il a subi. Il a quand même fini septième sur le Granon à 2 minutes 51 de Vingegaard. Pour lui, c'est quand même difficile à digérer, difficile à avaler. Donc, il va y avoir une remise en question, ça c'est certain.
L'orgueil, évidemment, du champion, le double tenant du titre, Tadej Pogacar, qui devra se consoler avec le maillot blanc du meilleur jeune, hein, qui nous rappelle encore qu'il a de belles années devant lui, et plus de 50 minutes d'avance d'ailleurs dans ce classement sur son dauphin, l'anglais Pidcock.